Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, co-présentée avec le site internet d'information Atlantico. Quand on ouvre le Grand Robert en 9 volumes, on peut lire au mot « orgie », nom féminin du latin « orgia » d'origine grecque, partie de débauche, où les excès de table et de boissons s'accompagnent de plaisirs érotiques et sexuels, et de citer, pour exemple, bien évidemment, les orgies de Néron ou les folles orgies du Directoire. Nous avons tous, ou à peu près tous, dans notre bibliothèque Astérix chez les Helvètes, tome dans lequel le gouverneur Garovirus organise une immense orgie sous des montagnes de fromage fondu. Plus récemment, la fameuse bande dessinée Murena, parue chez Dargo, dans son dernier opus, révèle dans ses premières pages une orgie correspondant très exactement à la définition du Grand Robert. On y voit entre autres les fameuses plumes aidant les convives à vomir dans des outres destinées à cet effet. Storia Voce vous propose aujourd'hui de casser un des plus gros mythes de notre histoire antique, celui de l'orgie romaine. Au cours de cette émission, nous allons voir que les Romains avaient certes de l'appétit, qu'ils aimaient, oui, les bonnes et les belles choses, mais que la cuisine était un art, tout comme elle est aussi à notre époque. Un marqueur social également, un élément de la culture, assurément, un révélateur d'une économie, méditerranéenne d'une richesse formidable. Dimitri Tilloy d'Ambrosi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé d'histoire, spécialiste de l'Antiquité. Vous enseignez à l'Université Lyon 3. Votre sujet de thèse est consacré à la nourriture à l'époque romaine, à l'alimentation. Et vous avez publié chez Arché, l'Empire romain par le menu, un ouvrage qui a été préfacé par Yann Le Boeck, que nos auditeurs peuvent retrouver sur Storia Voce, puisque nous avons consacré une de nos émissions à Alésia. Voilà, Yann Le Boeck qui avait aussi comme élève Virginie Giraud, que vous pouvez aussi retrouver sur Storia Voce. Dimitri Tilloy d'Ambrosi, ma première question souvent est une question relative aux sources, et ces sources sont très importantes, surtout à l'époque romaine, parce que notre vision des sources, notre approche des sources, fait que, au fond, on se dit qu'en histoire antique, bien évidemment, on a statistiquement moins de volume de sources qu'en histoire contemporaine et en histoire moderne. Quelles ont été vos sources pour rechercher, au fond, l'univers culinaire romain ?
Alors, comme vous l'avez rappelé à juste titre, le grand drame de l'historien qui travaille sur l'Antiquité très souvent, c'est le manque de sources. Mais par chance, lorsque l'on travaille sur l'alimentation, on bénéficie d'un corpus de sources assez conséquent, assez important. En premier lieu, les sources littéraires. Les œuvres littéraires de tout type, comiques, des œuvres épistolaires également, des œuvres satiriques, comportent des références extrêmement nombreuses à l'alimentation. Autre source extrêmement importante, toutes les sources fournies par l'archéologie. On retrouve évidemment tous les contenants, tels les amphores par exemple, les plats en céramique, mais également parfois des restes d'aliments carbonisés, comme c'est le cas à Pompéi ou Herculanum. Alors, l'iconographie également, hein, donc des mosaïques, des fresques par exemple, fournissent une documentation extrêmement riche, extrêmement précise parfois sur l'alimentation, puisqu'on peut y trouver toutes sortes de mets qui sont donc représentés. Les squelettes également permettent d'apporter des informations très utiles sur des aspects nutritionnels par rapport à l'alimentation antique. Je pense notamment à ceux d'Herculanum, hein, où on a également fouillé les égouts qui ont apporté des traces très intéressantes, hein, sur l'alimentation antique. Donc voilà, on a un corpus, hein, extrêmement important, assez large, hein, de références, d'informations sur l'alimentation à Rome.
Alors, les lieux, d'abord, le titre de votre livre, c'est « L'Empire romain par le menu ». Vous avez souhaité étudier uniquement Rome ou bien la romanité et l'Empire dans son ensemble ?
Alors, une fois de plus, on dépend des sources, hein, essentiellement, puisque ces sources, littéraires j'entends surtout, traitent essentiellement de l'Italie. Elles sont vraiment centrées sur l'Italie. Lorsque l'on prend des sources comiques, c'est la société romaine de la capitale, très souvent, qu'elles dépeignent. Mais j'ai essayé malgré tout, en articulant ma réflexion avec l'archéologie, de me pencher également sur l'alimentation dans les provinces. D'une part, pour essayer de voir, de déterminer si on peut parler de romanisation en matière d'alimentation, et puis également tenter de voir les approches régionales, les particularismes locaux qu'il peut y avoir en matière d'alimentation.
Alors, on ne mange pas pour manger à Rome. La nourriture est également un marqueur social, c'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement dans l'étude culinaire, on est dans l'étude des sociétés, dans l'étude anthropologique.
Absolument. Un des enjeux de cet ouvrage, puis de mes recherches en général, ce n'est pas seulement de décrire ce que l'on mangeait au quotidien, mais surtout d'essayer de comprendre ce que l'alimentation nous révèle des hommes de cette époque, de leur mentalité et de leur hiérarchie. Et donc cette notion d'hiérarchie est absolument essentielle lorsque l'on étudie la société romaine. C'est une société où chaque individu doit nécessairement rentrer dans une place qui lui est attribuée, qui est définie donc par la hiérarchie. Et donc l'alimentation, en effet, est un marqueur fondamental pour déterminer donc, si on appartient plus à l'élite ou bien à des catégories plus populaires. Et donc vraiment, l'identité se construit en très grande partie à travers l'alimentation, à travers les choix d'aliments et qu'on va faire et qu'on va proposer également à ses convives.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. C'est une citation de Bria Savarin que vous reprenez.
Oui, c'est une citation de Bria Savarin, en effet, ce fameux gastronome d'époque contemporaine, mais qui finalement peut être appliqué à diverses époques et qui est tout à fait valable pour l'époque romaine.
Alors, le lieu, la période est très importante et votre étude est... J'ai été surpris d'ailleurs, très très large. Quelles sont ces limites chronologiques?
Alors en effet, j'ai choisi une approche assez large au niveau chronologique qui peut peut-être surprendre, mais ça me semblait important pour déterminer les inflexions qu'il pouvait y avoir dans les pratiques alimentaires, donc sur cette longue période qui court de la République, puisque j'aborde des sources qui traitent en effet du 3e siècle avant Jésus-Christ, par exemple, je pense notamment à Plaute. Donc là, on est vraiment au milieu de la République, on est... à une période où finalement l'Empire romain est d'une taille encore assez restreinte, on est encore loin de la taille qu'il va atteindre lors du Haut Empire. Et donc je m'arrête à la fin de l'Empire, et cette vision assez large permet d'une part donc, de repérer quelques inflexions, dont on reparlera peut-être, par rapport à l'enrichissement de la table, lié donc notamment aux apports des conquêtes, mais également des permanences tout de même assez importantes. Par exemple la permanence de la fameuse triade méditerranéenne, bon, qu'on peut nuancer tout de même, puisqu'il y a d'autres aliments qui se
donc
greffent
la triade,
sur ce modèle.
Le blé.
Le blé, donc l'olive, et le raisin, et donc le vin par extension. Donc on a également les poissons, évidemment, les légumineuses qui vont se greffer.
Qui était la trilogie brodélienne.
Voilà, tout à fait, ouais. C'est Brodel, en effet, qui a bien déterminé ce modèle, et on peut l'observer, évidemment, pour l'époque antique. Donc il y a des permanences, mais en même temps quelques évolutions, liées notamment aux importations de nouveaux produits, d'Orient en particulier, qui vont enrichir la table et essentiellement la table des élites.
Alors j'aime beaucoup votre plan parce que au fond on suit une histoire, l'histoire de l'aliment d'où il vient jusqu'à la digestion, puisqu'il y a un aspect médical, non pas médical mais diététique, puisque vous dites dans votre livre que la diététique est plus importante que la pharmacopée et la chirurgie. Nous allons y revenir, mais donc on démarre par les étalages, c'est-à-dire l'achat. D'où viennent l'achat des aliments? D'où viennent les aliments que l'on achète?
Alors tout dépend du type d'aliments que l'on recherche. Lorsqu'il s'agit d'aliments de base, je pense à des céréales par exemple, à des viandes, ou des légumes, l'approvisionnement peut se faire à une échelle plutôt locale, mais il y a une exception donc par rapport aux céréales qui, à partir d'Auguste, vont de plus en plus être importées d'Afrique du Nord, d'Égypte essentiellement, qui est une province essentielle pour l'approvisionnement de Rome. Et donc, à mesure que l'Empire se développe, en fait, ces produits vont venir de plus en plus loin. Donc d'Afrique du Nord pour les céréales, de Sicile également. Et puis d'Orient, on va donc faire venir des produits plus précieux, plus rares, tels des épices, par exemple. Je pense notamment au poivre. Bon, ça, ce sont des produits qui seront évidemment plus rares. Mais après, voilà, il faut évidemment considérer le monde des campagnes, dans lequel quand même vit une bonne partie de la population de l'Empire. Là, les marchés sont beaucoup moins développés, évidemment, et on va vraiment privilégier des circuits courts, voire le paysan, le simple paysan qui vit sur ses terres, eh bien, va manger ce qu'il produit. Les surplus qui lui restent, puisqu'il va devoir en vendre une partie sur les marchés. Donc on a divers types de circuits qui existent, selon qu'on est en ville ou à la campagne.
Et la Méditerranée est évidemment importante. L'Égypte, on parle de l'Égypte comme étant le grenier de l'Empire.
Oui, l'Égypte est absolument essentielle. Elle est étroitement contrôlée par le pouvoir impérial. Hein, et d'ailleurs, il s'agit pas vraiment d'une province à part entière, c'est plus une propriété de l'empereur. Et les approvisionnements donc, qui partent d'Alexandrie et qui vont donc jusqu'au port de Pouzol, notamment, qui se trouve donc au sud de Rome, là, on a vraiment une liaison essentielle qui est vitale, vraiment vitale pour le peuple de Rome, puisque faut rappeler que Rome hein, compte plus d'un million d'habitants à l'époque du Haut Empire. Et la nourriture de ce peuple, hein, donc qui tient essentiellement aux céréales, eh bien, dépend vraiment de cet approvisionnement. Donc, un approvisionnement qui serait perturbé, qui peut être coupé, eh bien, c'est le risque de courir à la disette à Rome, voire aux émeutes hein, qui pourraient découler de ce manque de nourriture. Et je pense notamment à l'époque des guerres civiles, hein, lorsque, donc, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, Sextus Pompée, donc le fils de Pompée, hein, tient la Sicile, tient tête donc au triumvir et notamment donc à Octave. Rome est menacée parce que la Sicile est également une source majeure d'approvisionnement. Donc on voit qu'il y a vraiment des enjeux stratégiques derrière aussi, derrière donc la possibilité d'assurer cet approvisionnement.
Mais est-ce qu'on peut dire, est-ce que l'Italie était autosuffisante? Est-ce que les provinces étaient autosuffisantes et avaient besoin de produits que, pardonnez-moi cet anachronisme, exporter, mais je pense qu'on peut l'utiliser.
Oui, tout à fait. Oui.
Exporter, importer. Est-ce que donc on observe cela?
Alors, jusqu'à une certaine période, c'est-à-dire, je dirais jusqu'au 2e siècle, 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Italie, globalement, suffit à nourrir la population de Rome et de la péninsule. Mais il s'avère qu'avec la croissance démographique, l'enrichissement également de la société romaine, l'Italie ne suffit plus. Et c'est pour ça, du coup, qu'on va importer des céréales, bah, notamment en Afrique du Nord. Et également, donc, des produits autres. Par exemple, je pense aux salaisons, des salaisons qui vont venir de Gaule, par exemple. Hein. Du Proche-Orient, on va faire venir des fruits notamment sous forme de conserve, qui correspondent à un goût nouveau qui se développe. Hein. On veut une nourriture plus diversifiée. Et donc, voilà, avec toutes ces évolutions sociales, démographiques, hein, il y a des besoins nouveaux hein, en termes de quantité, mais aussi de qualité et de diversité, qui nécessitent d'importer. Donc l'importation, en effet, est essentielle pour nourrir l'Italie, et en particulier Rome, hein, qui est donc vraiment une mégapole antique.
Alors ce qu'il y a d'étonnant, et ce qu'on découvre d'emblée dans votre ouvrage, c'est que l'alimentation, c'est un peu comme aujourd'hui. Dans le monde de l'édition, les livres de cuisine marchent très bien, voire très très bien. À l'époque, l'alimentation est un savoir. On choisit ses aliments, et j'allais dire, on les choisit en fonction de critères parfois qui vont jusqu'au raffinement. Vous parlez notamment de des crêtes de coq, ou bien de du fait qu'un animal soit pêché en fonction de la lunaison, ce qui est complètement incroyable.
Oui. Donc en fait, ce type d'information, on va le retrouver chez Apicius, par exemple, hein, donc dans l'art culinaire, hein, son traité de cuisine. Alors qu'une compilation de recettes d'époque tardive. On peut retrouver de telles informations également chez Athénée de Naucratis, qui est un auteur du 2e siècle après Jésus-Christ, qui est l'auteur d'une œuvre qui est une forme de dialogue, en fait, qui a lieu dans un banquet, et où, en effet, on va très souvent échanger au sujet des aliments, de leur origine. Et en fait, le banquet est vraiment un prétexte à afficher une culture encyclopédique au sujet de ces aliments. Et donc, comme vous le rappelez, on insiste beaucoup sur la partie d'aliments qui est choisie, donc par exemple des crêtes de coq, des langues de flamand, hein. Évidemment c'est vraiment un signe de raffinement, de bon goût parfois, et également on insiste sur l'origine de l'aliment et également les conditions dans lesquelles il a été alors soit cultivé ou récolté, et ça a un impact très fort sur le goût, en tout cas sur l'idée qu'on se fait du goût de cet aliment. Et donc voilà, pour les poissons, on dit par exemple que les poissons pêchés dans le détroit de Messine sont les meilleurs qu'on peut trouver en Méditerranée. Et voilà, le fait de dire à ses convives que ces poissons ont été pêchés dans le détroit de Messine, ça montre qu'on a de l'argent déjà, parce que c'est des poissons qui valent cher d'une part, puis également c'est supposé voilà, améliorer, renforcer le goût hein, d'un plat savoureux.
Autre découverte, on n'invente absolument rien, on manipulait les aliments.
Oui, alors ça c'est vraiment une caractéristique de la cuisine romaine, on les manipule de diverses façons. On n'hésite pas à maquiller en quelque sorte les aliments, à déguiser les plats, c'est-à-dire par exemple, à donner l'illusion,
croire.
Voilà, tout à fait, à donner l'illusion que l'on mange, par exemple, du poisson, puisque le plat a une forme de poisson, hein, on utilise un moule en forme de poisson, mais il s'agit de viande de porc. Alors, ce stratagème permet, par exemple, de servir à ses convives des plats d'aspect luxueux, mais qui, au final, reviennent moins chers que les apparences le laissent croire. En fait, c'est une façon voilà, de tromper un peu ses invités, de cacher parfois son manque d'argent. Ça, c'est une première chose. Et puis également, on n'hésite pas à utiliser des colorants parfois. Et dans Apicus, on a des indications pour renforcer la couleur verte des légumes. Donc, au-delà du goût lui-même, la vue, hein, vraiment tous les sens sont mobilisés lors du banquet. La vue est essentielle puisqu'elle va accompagner le goût. La vue donc des couleurs, la présentation... les décors, parfois, qui peuvent accompagner les plats, qui est une véritable mise en scène hein, derrière que l'on peut observer. On la voit très bien dans le banquet de Trémalquillon, hein, par exemple, chez Pétrone.
Alors là, nous sommes dans un univers riche, bien évidemment, élitiste, mais de manière générale, vous expliquez bien, d'ailleurs, vous donnez l'origine du mot fruit, frugal, pardon. Frugal, c'est frugesse. Il y a une sorte de simplicité romaine. On a l'image un peu, hein, c'est le soldat, on le voit d'ailleurs dans Astérix, c'est le soldat qui doit prendre sa retraite et qui doit cultiver son potager. C'est même une forme d'idéal, la culture du potager.
Oui, en fait, il y a une véritable tension, on pourrait dire, à mesure que Rome s'enrichit, entre d'une part des tables qui deviennent de plus en plus fastueuses, et puis d'autre part des esprits plus conservateurs. Je pense notamment à Caton l'Ancien, 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais on le retrouve également aux Temps-Pierre. Il suffit de lire Sénèque, hein, par exemple, à l'époque de Néron. Des esprits qui regrettent la simplicité des temps anciens, de la République, des débuts de la République notamment, à une époque où les Romains étaient attachés à leur terre, où le citoyen était avant tout donc, un homme au service de sa cité et qui se battait également pour sa cité, et qui, une fois ses tâches accomplies, bien retournait en effet à ses terres. L'histoire romaine hein, livre plusieurs exemples quand même assez célèbres de grands généraux qui ont accompli des exploits. On pense à Dentatus, à Cincinnatus par exemple, là, qui sont des généraux victorieux, qui sont des triomphateurs, et puis qui finalement retournent à leur terre, cultivent des légumes très simples comme des raves, des navets par exemple. Et donc cet attachement à la terre, à ces produits de la terre, est lié à une vertu qui est vraiment inhérente à la société romaine, qui est donc ce qu'on appelle la virtus. Qu'on pourrait traduire par vertu, mais c'est un mot qui a une acception quand même plus large à l'époque romaine. C'est vraiment une forme de dignité, de pureté, de morale en quelque sorte.
Vous expliquez bien que l'activité nourricière, la terre, est plus noble au fond que l'activité du commerce.
Absolument. Ce n'est pas anodin d'ailleurs hein, que pour les sénateurs, il est interdit de pratiquer le commerce. La terre est la seule source de revenus qui soit vraiment noble. Et donc les sénateurs sont des grands propriétaires fonciers avant tout.
Est-ce qu'il existe, pardonnez-moi là encore cet anachronisme, une forme de, à Rome, une forme de ringis, c'est-à-dire un marché qui permet d'alimenter la capitale?
Oui, alors compte tenu de la population de Rome, il est nécessaire qu'il y ait une certaine organisation dans l'approvisionnement. Alors déjà en amont de Rome, on va trouver évidemment le port d'Ostie, qui est vraiment un des points centraux d'arrivée de ces marchandises. On a notamment la place des corporations, hein, qui va réunir des marchands qui pratiquent de l'import-export, des marchands pas italiens uniquement, mais qui viennent de Narbonnaise, d'Afrique par exemple. Ces marchandises donc ensuite parcourent le Tibre, remontent vers Rome, et le long des rives du Tibre, on a d'immenses entrepôts, hein, qu'on appelle des oreas, qui permettent donc de conserver toutes ces marchandises. Et donc sur ces rives du Tibre, à proximité, notamment dans la zone qu'on appelle le Forum Boarium, on va trouver divers marchés qui parfois peuvent être en effet spécialisés dans tel ou tel produit. Et donc dans cet espace, hein, qui est donc entre le Capitole et le Tibre, on va retrouver par exemple donc, un marché pour les bœufs, donc Forum Boarium, hein, littéralement c'est le marché aux bœufs, des marchés pour les légumes, des marchés pour l'huile, etc. Sur le Forum également, donc un peu plus au nord-est, on a également un marché uniquement consacré au poivre. Ce qui montre hein, une spécialisation et une concentration vraiment des activités de vente d'aliments, hein, de commerce de denrées alimentaires, donc sur les rives du Tibre hein, et près des zones attenantes au Forum.
Alors, vous décrivez la plupart des aliments hein, qui sont utilisés dans la cuisine, et le premier d'entre eux que vous décrivez, c'est le vin. Est-ce qu'on peut comparer le vin de l'époque à notre vin?
Alors, ça dépend du point de vue qu'on adopte. Au niveau de la vision qu'on a du vin, on pourrait faire des parallèles dans la mesure où il existe déjà à l'époque une hiérarchie très affirmée des crus, des différents vins. Au sommet, donc, on va trouver des vins qui viennent du monde grec, des vins qui viennent d'Italie, de Campanie notamment, je pense au Falerne par exemple, et puis tout en bas des piquettes, hein, ce qu'on pourrait appeler des piquettes, des vins d'un goût pas très raffiné, qui s'apparentent plus parfois à des boissons vinaigrées. Et en revanche, au niveau du goût, là, il y a une différence quand même assez importante. Hein. Ce sont des vins dont le goût est très prononcé, puisqu'on y mêle très souvent des aromates, des épices parfois. De même, les amphores sont poissées, donc on a le goût de la poix, voire de résine, hein, qui peut imprégner le vin. Donc, il est nécessaire de le couper avec de l'eau. De l'eau qui peut être chaude parfois, voire à l'opposé de la neige. Donc voilà, la façon de boire le vin, le goût hein, qu'il porte est assez... sont des éléments assez différents par rapport au vin que l'on peut consommer actuellement.
Alors nous évoquions les sources tout à l'heure et vous parliez de l'archéologie, il y a ce qu'on appelle comme discipline l'archéozoologie. Et l'archéozoologie a détruit un mythe dont vous parlez d'ailleurs dans votre ouvrage et vous le développez sur le site des éditions Arché, votre éditeur, c'est le sanglier. Le sanglier, nous avons tous l'image d'Obélix évidemment mangeant des sangliers. Or, ce sanglier gaulois est un mythe. En revanche, chez les Romains, il était apprécié.
Absolument. L'archéozoologie, donc l'étude des ossements animaux, permet vraiment d'avoir une vision plus juste de la consommation donc, d'animaux et de chair hein, dans le monde antique. Et il apparaît, et ça semble assez important, que chez les Gaulois, en tout cas, surtout chez les Gaulois plus du sud de la Gaule, qui sont déjà plutôt au contact des Grecs, des Romains depuis une période plus ancienne, finalement, ce sont essentiellement des animaux d'élevage qui sont consommés. On va trouver donc des porcins, donc du porc domestique, on va trouver des ovins par exemple, hein. Mais il apparaît que les animaux issus de la chasse, hein, le gibier, ne reçoivent pas vraiment les faveurs des peuples gaulois. Et à l'inverse, hein, les Romains, eux, sont très friands de gibier. Et le sanglier, donc, qu'on évoque à l'instant, est un des plats favoris, puisque dans Apicus, on retrouve au moins 10 recettes uniquement pour accompagner le sanglier par des sauces hein, de divers types, diverses façons de le cuire, de l'aromatiser, etc. Donc ça montre qu'il y a vraiment un goût hein, pour le gibier. Et la chasse, c'est une activité qui est également caractéristique de l'aristocratie. Donc du coup, pouvoir manger du gibier, c'est quelque chose qui est assez valorisant pour les membres de l'élite.
Alors, nous savons tous que la gastronomie grecque est une des meilleures gastronomies méditerranéennes. À l'époque romaine, il existe plus qu'une influence, c'est une réalité. La gastronomie vient de la Grèce?
Absolument. La gastronomie romaine, quand on regarde notamment chez Athénée de Naucratis, hein, dans les dépnosophistes que j'évoquais tout à l'heure, une grande partie de la cuisine romaine est une importation, c'est un véritable transfert culturel qui vient du monde grec et hellénistique. Alors, parmi les références hein, qui sont très souvent citées par les Romains, qu'on retrouve notamment chez Athénée d'ailleurs, hein, on trouve Archestrate de Géla, qui est donc un cuisinier grec hein, extrêmement renommé, qui est l'auteur d'ailleurs d'une gastronomie, alors dont malheureusement on a perdu le texte, on en a seulement quelques fragments. Ça illustre bien voilà, cette influence, cette admiration même pour la cuisine qui vient du monde grec et hellénistique. Donc tous ces raffinements en effet viennent de cette ère culturelle.
Alors les recettes, on parlait des recettes tout à l'heure et d'Apicius, les recettes sont très sommaires, elles donnent peu de détails, au fond elles donnent les ingrédients et la façon dont on les prépare, mais absolument aucune proportion, ni la façon vraiment de les cuire.
Oui, en fait, ces recettes sont plus des pense-bêtes, en quelque sorte, pour le cuisinier, c'est-à-dire une liste d'ingrédients qu'il faut mobiliser pour faire la recette, mais cela suppose que le cuisinier connaît par avance quels sont les gestes de cuisson, les temps de cuisson également, les doses des différents ingrédients que l'on va utiliser, comme par exemple le garum, ce qui fait qu'il est assez difficile, un peu hasardeux, de vouloir reconstituer des recettes antiques, puisque on doit y aller un petit peu à tâtons pour déterminer les doses les plus adaptées pour que le plat soit acceptable, en tout cas au niveau du goût.
Alors vous donnez une partie de ces recettes en fin d'ouvrage, et on découvre qu'on mangeait des loirs à l'époque. Vous donnez la recette de la sauce pour la murène rôtie, ou bien encore le poulet à la part. Vous avez vous-même essayé, tenté de faire une de ces recettes?
Alors, parmi celles qu'on vient de citer, pas spécifiquement. J'ai eu l'occasion d'en essayer d'autres en revanche. Alors, le résultat est assez intéressant au niveau du goût. J'ai eu l'occasion d'essayer des recettes de gâteaux avec du miel notamment, également des sortes de gruaux avec de l'orge, avec du vin, également une sorte de bouillie donc, constituée d'orge et de légumes. Donc au niveau du goût, c'est assez intéressant de retrouver ces saveurs qui peuvent surprendre parfois par les associations que l'on peut faire. Et je me suis aperçu qu'il est difficile, hein, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une cuisson qui soit satisfaisante, la texture parfois pour certaines préparations, donc je pense notamment aux bouillies, aux gruaux, etc., demande quand même, à mon avis, plusieurs essais pour arriver à quelque chose qui soit satisfaisant et proche de ce qu'on pouvait faire à l'époque.
Alors le cuisinier, c'est un personnage fondamental de la société romaine ?
Oui, alors le cuisinier est fondamental puisqu'on le retrouve très fréquemment dans les comédies de Plaute, hein, donc au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et le statut du cuisinier est assez paradoxal, un petit peu ambigu. D'un côté, dans les sources comiques, on peut le présenter comme quelqu'un de fourbe, prêt à escroquer les gens pour qui il travaille. Il faut rappeler, hein, que ces cuisiniers sont très souvent de conditions serviles. Ce sont des esclaves, parfois un fait prisonnier dans le monde grec, ce qui montre que ces cuisiniers sont aussi un vecteur, hein, du transfert de la cuisine grecque vers le monde romain. Ça me semble vraiment essentiel. Mais en même temps, on ne peut pas se passer d'eux, hein, pour la réussite d'un repas. Et à l'inverse, hein, chez Athénée de Naucratis, par exemple, donc dans le Banquet des Sophistes, le cuisinier est vraiment présenté comme un artiste. Quelqu'un qui possède un savoir très large, pas uniquement en cuisine, mais également en astrologie, par exemple, pour être capable de déterminer à quelle saison, à quel moment de l'année ou du mois il est préférable de prendre tel ou tel aliment, par exemple de pêcher tel ou tel poisson, en médecine, en géographie, etc. Donc voilà, une image un petit peu contrastée, on pourrait dire, du cuisinier. Mais en effet, c'était un personnage tout à fait fondamental. Mmh. Alors, un cuisinier coûte très cher. Ça, c'est important, hein. C'est un esclave, un serviteur qui peut atteindre un prix extrêmement élevé, hein, et Pline l'Ancien le regrette d'ailleurs dans l'histoire naturelle. Hein. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, on peut le louer à la journée, en tout cas pour la soirée, pour le repas du soir. Et il suffit de se rendre sur le forum à Rome, hein, pour pouvoir embaucher donc un cuisinier qui propose leur service. Et dans Plaute, on retrouve donc cette concurrence parfois féroce entre cuisiniers qui espèrent donc recueillir, hein, l'attention donc d'un riche maître qui souhaite organiser un banquet.
Alors, sortons de ces aliments, venons-en au rite social, à proprement parler, petit déjeuner, déjeuner, dîner. On pense un peu, j'allais dire, à la façon de vivre espagnole. Déjeuner... peu important. En revanche, le dîner, c'est le moment le plus important. C'est un rite social très important. C'est le moment où on invite des personnes.
Oui, le dîner, qu'on appelle donc la cena en latin, est vraiment le seul véritable repas de la journée. Alors que le petit déjeuner, et donc le déjeuner, hein, ce qu'on appelle donc le ientaculum et le prandium en latin, sont plus des encas en quelque sorte. Il s'agit vraiment de se restaurer rapidement pour ensuite retourner à ses occupations. Mais donc le dîner du soir, hein, qui se prend généralement en fin d'après-midi, début de soirée, est plus qu'un simple repas, puisque c'est un rite social où l'invitation est déjà un des fondements de l'hospitalité. L'hospitalité est vraiment une des valeurs qui est sous-jacente au banquet. Il s'agit donc de nouer des relations avec ses pairs, avec d'autres membres de l'élite, hein, par exemple, et en échange, on pourra espérer ultérieurement être invité à son tour. On est vraiment dans une logique de don et de contre-don. C'est vraiment une logique qui est tout à fait importante dans les mentalités antiques, qu'on retrouve pour le rite du repas, mais en religion également, puisque c'est ce type de relations qui vont unir, hein, les hommes et les dieux, par exemple.
Alors vous citez un personnage qui a été, une puissance invitante, et la personne invitée a dit qu'elle allait venir à ce repas, et finalement elle n'est pas venue. Et vous citez le texte de la puissance invitante, je me permets de reprendre les mots de ce personnage qui s'appelait Septicius Clarus. « Comment tu acceptes une invitation à dîner et tu ne viens pas? Voici ma sentence. Tu me rembourseras jusqu'au dernier centime et il y en a pour cher. Il y avait une laitue par personne, 3 escargots, 2 œufs, un gâteau de semoule avec du vin au miel et de la glace. Oui, tu me compteras aussi la glace et même plus que le reste puisqu'elle a fondu à table. Des olives, des bêtes, des courges, des oignons et des centaines d'autres plats tout aussi délicieux. Tu aurais écouté des acteurs ou un lecteur ou une joueuse de lyre ou même je t'aurais offert toutes ces distraction, vois comme je suis généreux. Il y a des conflits juridiques autour des repas ?
Alors cette lettre, hein, qui est une lettre donc, de Pline le Jeune, est tout à fait savoureuse, puisqu'on a...
Oui, à Septicus, hein, c'est ça. Hein.
Oui, Septicus Clarus.
Ouais, Septicus, hein, voilà. Clarus, oui.
On a vraiment une description du repas dans son ensemble, tout ce qui avait été préparé, puis des divertissements également. On voit l'importance de la musique, des danseuses par exemple, hein, qui sont très souvent une composante du banquet. Alors, il ne s'agit pas vraiment d'une... comment dire, d'une condamnation juridique, mais d'une condamnation plutôt morale et sociale. Et en effet, il y a une forme d'obligation. Quand on est invité, on doit honorer l'invitation, d'une part. Et donc là, c'est un affront terrible, puisque ce personnage, hein, Septicius Clarus, qui ne s'est pas présenté donc, au dîner de Pline, est allé vraiment à l'encontre de l'hospitalité. Et par extension, on peut dire qu'il est allé carrément à l'encontre des valeurs de l'élite.
Il avait une bonne excuse ou on ne sait pas ?
On ne sait pas.
On ne sait pas, on ne sait pas. Alors, il y a aussi des piques-assiettes, oui. J'étais très étonné. Et on le voit bien d'ailleurs, dans le, là pour le coup, c'est dans la bande dessinée Murena, on voit des personnages qui paraissent complètement... enfin, on se demande ce qu'ils font là, et ce sont des piques-assiettes.
Oui, alors ces personnages sont vraiment des figures incontournables du banquet aristocratique. On les appelle des parasites, ou des ombres également, puisqu'ils suivent donc, des personnages puissants pour espérer trouver donc, de quoi se nourrir. On les retrouve très fréquemment dans les comédies, dans les sources comiques. C'est des personnages incontournables dans la satire, dans certaines pièces de théâtre également. C'est vrai que cette pratique peut nous paraître un petit peu étrange, mais ils font partie des logiques d'hospitalité. Le maître, hein, chez qui ils se rendent, donc pour espérer trouver à manger, est obligé, hein, de leur donner, donc de répondre à leur requête, donc de leur céder de la nourriture. Mais attention, il s'agit d'une logique de clientèle. C'est-à-dire qu'en échange, ces gens qu'on peut qualifier d'inférieurs au niveau social seront les obligés du maître chez qui ils se rendent et chez qui ils vont se comporter en tant que parasites. Et Juvénal le dit assez bien dans les satires. Il rappelle que quelqu'un donc, qui se comporte en parasite, qui va chez quelqu'un de puissant, à qui on a emprunté de l'argent, par exemple, eh bien, considérera, du coup, que l'argent était remboursé. Donc, voilà, c'est une forme de dépendance, hein, qui n'est pas tout à fait acceptable pour les Romains. On le tolère, hein, évidemment, mais d'un point de vue social, c'est très dégradant.
Alors, autre chose étonnante, c'est qu'on peut repartir chez soi avec un peu de nourriture, ce qu'on appellerait chez aujourd'hui un doggy bag. Là, ce n'est pas un doggy bag, c'est pas pour le chien, c'est pour soi. On peut repartir avec des... c'est tout à fait faisable.
Oui, c'est une pratique qui est très courante. Chaque invité dispose de ce qu'on appelle une mappa en latin, c'est-à-dire une grande serviette qui permet de s'essuyer durant le repas, mais également, puisque je rappelle qu'on mange avec les doigts, mais qui sert également à ramener des aliments chez soi, qu'on pourra consommer généralement le lendemain au petit déjeuner. Souvent, on peut consommer des restes de la veille. Alors, cette pratique est admise, hein, elle n'a rien de choquant pour les gens de l'époque, mais chez Martial, on rapporte l'exemple d'un individu qui n'hésite pas à remplir sa serviette outre mesure, qui cache même des aliments dans les pans de sa toge et qui revend les aliments le lendemain. Là, par contre, il y a un problème, puisque, une fois de plus, on va à l'encontre, hein, des règles d'hospitalité. Puisque le maître de la maison, donc, qui organise le repas, tolère évidemment cette pratique, mais dans certaines limites.
Il y a un rite, et on voit bien l'image du Christ qui veut laver les pieds de Saint-Pierre, et Saint-Pierre refuse que le Christ lave ses pieds. Or, c'est un rite, c'est-à-dire qu'avant le repas, on doit faire en quelque sorte ses ablutions.
Oui, il y a une dimension rituelle qui est tout à fait essentielle. Déjà, avant même de se rendre dans la demeure où on peut être invité, on se rend au terme. La journée de travail, d'activité, hein, se conclut très souvent par le passage au terme, qui permet donc de se nettoyer, mais également il y a une dimension symbolique, hein, puisqu'on se purifie. Et ensuite, donc, en effet, une fois arrivé chez le maître, hein, il est de bon ton souvent de se laisser laver les pieds. En tout cas, il est mal vu de s'installer dans la salle à manger avec les pieds sales. Une inscription de Pompée, hein, qui est donc la maison, qui vient de la maison du moraliste, rappelle que voilà, il faut veiller à ne pas salir les draps, hein, qui sont disposés sur les lits, hein, où on s'allonge pour pouvoir, pouvoir manger. Et donc cette image qu'on retrouve, hein, dans l'évangile avec le Christ, hein, lavant les pieds de ses apôtres, finalement, hein, c'est un élément que l'on peut retrouver également dans la société romaine.
Dimitri, d'où vient le le mythe de l'orgie.
Alors ce mythe qui est très persistant peut se retrouver dans certaines sources antiques. Donc il y a quand même un fondement qui peut être trouvé dans l'Antiquité, dans plusieurs types de sources, dans des sources satiriques, comiques, et essentiellement dans le Satyricon. Et cette source qui présente un banquet absolument gargantuesque, hein, et l'adjectif est vraiment approprié, a beaucoup marqué des siècles de littérature, hein, et d'esprit, et surtout il a été adapté au cinéma par Fellini. Et ce film, hein, qui a vraiment bien retranscrit d'ailleurs l'esprit qui animait ce banquet, a marqué évidemment. Et donc cette image, hein, persiste, à tel point que dans Astérix par exemple, on a une parodie de ce banquet, qui d'ailleurs reprend un petit peu les mêmes mises en scène, les mêmes couleurs.
Et une allusion à Fellini,
voilà. Absolument, oui, absolument. Donc cet album, hein, donc c'est dans Astérix les Helvètes, chez les Helvètes, on retrouve donc cette parodie un petit peu du Satyricon et de Fellini. Ensuite, autre source qui permet de... qui a laissé croire en effet que les orgies étaient monnaie courante, ce sont les biographies impériales. Je pense notamment aux biographies de Néron, de Commode, de Caligula par exemple, ou de Vitellius, un des empereurs réputés gloutons. Alors déjà, ce trait, hein, de caractère de ces empereurs a été forcé, a été noirci volontairement pour renforcer l'image d'un mauvais empereur. Parce que ce sont des sénateurs qui jugent que ces empereurs sont mal comportés avec le Sénat. Donc déjà, il y a cet élément qui fait, voilà, qu'on a une vision un petit peu déformée. Et c'est vraiment la culture contemporaine ensuite, hein, donc les péplums notamment, qui sont emparés de cette image, qui l'ont amplifiée et du coup qui l'ont popularisée. On pense à des péplums, hein, comme Caligula par exemple, comme Covadis également, hein, où on a des scènes, hein, liées à Néron. Et Néron d'ailleurs est un des empereurs, hein, qui parfois est emblématique, hein, de la pratique de l'orgie. Donc voilà, c'est la culture populaire qui a contribué à diffuser cette image.
Il y a une morale. Il y a une morale romaine, et la morale, c'est la mesure. Et vous l'expliquez bien, Rome devient de plus en plus riche, et parce que Rome devient de plus en plus riche, et pour éviter les endettements, il y a même des lois qui limitent la consommation.
Oui, c'est ce qu'on appelle donc les lois somptuaires, qui visent à limiter le luxe et les dépenses liées au luxe. Alors ces lois, dont j'en donne une chronologie à la fin de l'ouvrage, hein, elles ont été essentiellement adoptées sous la République, en grande partie. Alors elles peuvent porter sur divers aspects, ça peut être sur la vaisselle, ça peut être sur la quantité de viande qui sont servies par exemple. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que la récurrence, hein, de l'adoption de ces lois, le fait qu'on en ait toute une série, ça montre qu'elles n'étaient pas appliquées. La nécessité de répéter l'adoption de ces lois montre que finalement, il était vain de vouloir lutter contre le goût du luxe à l'époque. Mais encore à l'époque impériale, hein, il existe quelques mesures adoptées par certains empereurs, hein, qui vont essayer de limiter aussi ce luxe. Je pense notamment à Tibère, hein, dont Tacite rapporte un discours où il condamne justement ce luxe qui est vu comme une source de corruption en quelque sorte pour la morale. Donc le lien entre cette mesure que l'on doit afficher lors du banquet, mais que finalement le citoyen romain doit afficher en toutes circonstances, est intimement lié à la morale, qui est une vertu essentielle pour les Romains.
Alors vous décrivez bien évidemment cette morale, mais au-delà de cette morale, il y a le soin du corps, et étonnamment, je le disais en début d'émission, ce que vous affirmez, c'est que la pharmacopée, la chirurgie ne sont pas forcément des sciences inférieures, mais elles sont moins importantes que la diététique. Et là aussi, hein, nous sommes victimes de la culture populaire d'Astérix, où on voit des Romains bedonnants. Or, ce sont plus des sénateurs et des personnages qui font attention à leur ligne et à leur corps.
Oui, les membres de l'élite, hein, sont extrêmement attentives à l'image qu'elles renvoient d'elles-mêmes. Et finalement, le corps, et notamment sa corpulence, hein, peut être un indicateur de sa tenue à table. Et donc la gloutonnerie qui entraîne donc une forme d'obésité est assez mal vue par les Romains. On retrouve des figures d'obèses dans l'Antiquité, chez les Étrusques notamment, qui n'ont pas hésité à les représenter, je pense à l'obèse de Cusi par exemple. Mais justement, pour les Romains, les Étrusques sont des gens aux mœurs tout à fait relâchées, qui profitent du plaisir avant tout et qui n'ont aucune retenue. Donc cette image est en effet très importante. Et comme vous le rappeliez, donc, la médecine antique, hein, se divise généralement en trois branches, donc pharmacopée, chirurgie, diététique. Il y a une complémentarité entre les trois, mais il est dit assez clairement dans les sources médicales que la diététique est perçue comme la plus noble, parce qu'elle nécessite un savoir absolument encyclopédique, elle concerne pas uniquement l'alimentation, hein, c'est vraiment l'hygiène de vie dans son ensemble. Ce sont également les bains, les massages, les activités sexuelles et physiques, le sommeil, etc. Et donc, il y a toute une régulation du quotidien, du mode de vie par les médecins. Et l'alimentation, évidemment, est au cœur de cette régulation, puisqu'elle est à la fois un moyen de préserver la santé, mais aussi de la corriger, de la soigner en cas de maladie.
Le plus étonnant, ce sont les gladiateurs. On ne va pas dire qu'ils mangent des graines, mais ils ne sont pas en tous les cas des consommateurs de viande.
Oui, alors l'image que l'on a parfois du gladiateur absolument robuste, très musclé, serait peut-être à nuancer. Il faut distinguer pour l'Antiquité le régime des athlètes, donc qui vont participer à des concours gymniques, qui eux, par contre, ont en effet une consommation de viande très soutenue. Galien le dénonce, d'ailleurs. Mais en revanche, il semble que les gladiateurs aient une alimentation beaucoup plus végétale, où la viande est beaucoup moins présente. On peut l'affirmer par rapport à deux sources. D'abord dans Galien. Galien décrit des gladiateurs qui consomment des fèves à Pergame, en Asie mineure, Pergame dont il est originaire. Donc là, on a un témoin direct. Et puis l'archéologie. L'archéologie nous renseigne sur l'alimentation des gladiateurs, puisque à Éphèse, donc une fois de plus en Asie mineure, on a retrouvé des squelettes de gladiateurs et les analyses montrent que leur régime semble avoir été essentiellement végétarien. Avec une place très importante pour les fèves, des légumineuses qui sont très nourrissantes, qu'on n'hésite pas à appeler la viande du pauvre, et qui est d'un bon apport calorique et du coup qui donne de l'énergie pour le combat.
Alors nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Dimitri, il y a un élément que nous n'avons pas évoqué, c'est la religion. C'est que cette société est une société religieuse, qu'il n'y avait pas de différence entre le temporel et le spirituel. Il y a des dieux de la nourriture, des dieux de l'alimentation.
Alors, on peut penser à deux divinités essentielles qui patronnent, entre guillemets, deux aliments fondamentaux. Je pense à Bacchus, évidemment, dieu de la vigne et du vin, qui a apporté le vin aux hommes. C'est un acte civilisateur. Il y a une symbolique profonde derrière cette image. Et d'autre part, Cérès, qui est évidemment la déesse des productions céréalières, qui est vue comme une forme de mère nourricière en quelque sorte. Donc ça, c'est un premier point. Et puis dans la sphère domestique, lors du repas lui-même, les dieux, mais aussi les morts, ne sont jamais très éloignés. Il faut rappeler que dans chaque maison, on a donc un larère auquel donc, on fait honneur en déposant donc des offrandes pour les dieux lares, qui sont des divinités protectrices de la maison. Et donc les morts que j'évoquais ne sont jamais éloignés des vivants, puisque les aliments qui tombent donc par terre, ça j'explique dans l'ouvrage, sont consacrés pour les morts, parce qu'ils touchent donc le sol, donc en lien avec le monde des enfers. Et certaines fêtes, je pense notamment au Parentalia, sont des fêtes où les morts reviennent parmi les vivants, et il faut veiller pour la nuit à leur laisser, donc c'est le père de famille qui en est responsable, il faut veiller à leur laisser des aliments pour qu'ils puissent se nourrir et les satisfaire. Donc il y a une dimension sacrée qui est assez importante. Autour de l'alimentation.
C'est ce que disait Yann Le Boeck dans sa préface. Nous sommes, on étudie l'histoire politique, on étudie l'histoire des hommes. Là, nous sommes dans le domaine culturel et on touche aussi, plus que du doigt, on touche ce que Pierre Grimal, vous le citez, l'âme romaine.
Absolument. En étudiant donc l'alimentation romaine, c'est plus qu'une simple liste d'aliments que l'on étudie. C'est vraiment percer les mentalités romaines, comprendre la société romaine, ses mécanismes, ses fonctionnements, ses représentations, ses valeurs également. Donc c'est une étude qui est un véritable prisme finalement pour comprendre la civilisation romaine. Puisque à travers cette alimentation et à travers les tables romaines, on comprend un nombre extrêmement important de choses sur les mentalités et sur les rapports sociaux également qui peuvent lier les Romains.
Dimitri Tilloy d'Ambrosie, merci.
Merci à vous aussi.
Je rappelle donc les références de votre ouvrage « L'Empire romain par le menu » qui se lit très facilement à offrir à la fois à tous ceux qui aiment l'Empire romain, qui veulent en découvrir sa complexité, mais aussi, pourquoi pas, à tous ceux qui aiment cuisiner parce que c'est extrêmement éclairant et cette idée à la fois anthropologique, sociale est absolument fascinante. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
Je vous remercie, vous chers auditeurs, et je remercie Georges qui est à la technique, toujours aussi fidèle. Et à très bientôt pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce.